vivre Notre-Dame de Paris. Marie Parent Andalaro, restauratrice de peinture murale, ce sera 100% création. Mais d'abord, l'heure des sports. Bonjour Christophe Dirindian.
Bonjour Sébastien.
Et du football avec vous. Et on peut le dire, les clubs de RDC qui ne sont pas très bien partis pour voir les quarts de finale de la Ligue des Champions avec deux défaites hier, Christophe, à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupe.
Avec dans chaque cas la conséquence de se retrouver au fond du classement de leur groupe respectif à deux journées de la fin. Le tout-puissant Mazembe a surtout été très impuissant en Tanzanie, battu 3-1 chez les Young Africans qui prennent la troisième place à leurs adversaires du jour. Avec seulement deux petits points au compteur dans la poule A, les Corbeaux joueront très gros sur les 15 prochains jours contre le Mouloudia d'Alger et les Soudanais d'Al-Hilal. Ces deux équipes qui d'ailleurs s'affrontent aujourd'hui à 19h temps universel. Je vais y arriver. Autre lanterne rouge dans le groupe B, Maniema battu 2-0 sur la pelouse des Marocains de l'Asfar, score obtenu dès la pause, sans réelle possibilité pour Maniema de pouvoir se relancer ensuite, explique leur entraîneur Papi Kimoto.
On a mal débuté la partie, on a encaissé tout, ça a chamboulé un peu nos points et à la fin de la première période, les gardiens ont commis des erreurs. Ce sont des choses qui arrivent au football. Mais en deuxième période, on a changé l'animation, ça a été beaucoup mieux, mais bon, on n'avait pas la chance aujourd'hui. Félicitations à l'équipe qui est gagnante. Et même avec la victoire d'aujourd'hui, Phare n'est pas assez d'être qualifié. Nous, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et on ne va pas baisser le bras. On va encore aller chercher à battre ma mélodie. Ce qui n'est pas facile, mais on va le faire, on va essayer.
Papi Kimoto, Maniema qui recevra samedi prochain les Mamelodi Sundowns, battus de leur côté par le Raja Casablanca 1-0 et en plus en ayant fini à 9. Situation encore plus désespérée dans le groupe C pour le Stade d'Abidjan, dominé 3-0 à Johannesburg par Orlando Pirates, nouveau leader, avec un seul point pour les Ivoiriens quand les doubles tenants du titre, Al Ahly, deuxième, en ont déjà 7. On sent que l'élimination est proche. Hormis Al Hilal Mouloudia, deux autres rencontres à suivre ce dimanche dans le groupe D. À 16h temps universel, les Égyptiens de Pyramids contre l'Espérance Tunis et les Angolais de Sagrada Esperanza face aux Maliens de Djoliba.
Journée complète également en Coupe de la Confédération, Christophe.
Parmi les matchs au programme, le duel des deux premiers du groupe B, les Marocains de la Renaissance de Berkane contre le Stade Malien. Dans le groupe C, l'ASEC Mimosa reçoit à 16h TU les leaders, les Algériens de l'USMA, vainqueurs du match aller il y a 3 semaines, 3-0. Au même moment, les Sénégalais du Jaraf accueilleront les Botswanais d'Orapa United avec la ferme intention de obtenir leur première victoire dans cette phase, ce qui nécessite évidemment de marquer des buts. Or, le club de Dakar n'en a marqué aucun en 3 matchs. Mais promis juré, cette fois, ça va rentrer, assure le capitaine Jérémy Bokandi.
On a bien travaillé. Allez, on ne connaissait pas trop l'équipe, mais maintenant, on sait comment faire pour prendre les 3 points. On a bien travaillé. Maintenant, pour concrétiser, comme tout le monde le sait, on a eu des difficultés pour marquer des buts. Le coach a travaillé avec les attaquants et je pense que vous allez voir une autre équipe du Jaraf avec d'autres attaquants au top niveau.
Jean-Rémy Bokandé avec Babacar Fall. Petit détour par la Ligue 1 pour finir, pour vous signaler la victoire de Saint-Etienne sur Reims 3-1, grâce notamment à un doublé du Ghanéen Augustin Boicaille.
Merci Christophe Dirindian, c'était le journal des sports. On vous retrouve tout à l'heure. 4h44 en temps universel. Un coup d'œil sur l'actualité internationale et 24 heures après le Hamas, Israël qui confirme à son tour une reprise des négociations au Qatar. Négociations indirectes entre l'État hébreu et le mouvement palestinien, chacun mettant en avant des priorités différentes. L'aéroport de Damas va rouvrir pour des vols internationaux, annonce de l'agence de presse syrienne. Les avions en partance et à destination de la capitale pourront de nouveau opérer après-demain, selon l'agence Sana. Ces vols étaient suspendus depuis pratiquement un mois et la chute de Bachar el-Assad. Les États-Unis qui ouvrent 6 jours d'hommage à Jimmy Carter. Le cercueil de l'ancien président a d'abord sillonné sa petite ville natale de Plains, dans l'État de Géorgie. Il sera ensuite exposé au public à Atlanta avant d'être transporté à Washington. Le 9 janvier marquera enfin un jour de deuil national. Et puis l'actuel président sortant des États-Unis, Joe Biden, qui devrait lui s'entretenir avec Edmundo González Urrutia. C'est l'opposant vénézuélien qui l'annonce après avoir rencontré ces derniers jours plusieurs dirigeants d'Amérique du Sud. Ils sont nombreux à avoir quitté le Venezuela justement depuis l'élection de Nicolas Maduro en 2013. Ils sont près de 5 millions. Des Vénézuéliens ayant bien souvent rejoint les pays voisins, la Colombie, les États-Unis, mais parfois plus loin, jusqu'en Europe ou en Afrique également. Ils sont quelques milliers ainsi à avoir trouvé refuge sur le continent africain. 1 millier au Maroc notamment, dont une part importante d'artistes. Ils ont trouvé là-bas des emplois comme professeurs de danse, chanteurs dans les bars ou musiciens dans les grands hôtels du pays. François Hume Ferkataji nous emmène à leur rencontre pour notre reportage du jour à Casablanca et Marrakech.
On a mal débuté la partie, on a encaissé tout, ça a chamboulé un peu nos points et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur. Ce sont des choses qui arrivent au football.
Ah, une petite erreur technique, vous l'avez compris, on parle encore football. Le temps que la machine se réveille, il est 5h47 ici à Paris. On y vient donc à notre reportage du jour qui est signé François Hume Ferkataji. Il nous présente ces Vénézuéliens qui se sont installés au Maroc.
On a mal débuté la partie, on a encaissé tout, ça a chamboulé un peu nos points et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur ici.
Alors, on a manifestement un petit problème technique, rien de grave. Sur RFI, on se réveille en douceur et on passe tout de suite à la chronique littéraire qui est signée comme tous les week-ends par Tirthankar Chanda. Et cette semaine, près de la bibliothèque d'RFI, on parle de la collection Continent Noir qui a été créée il y a 25 ans, créée par les éditions Gallimard. Elle est consacrée aux écrivains d'Afrique et de la diaspora. Elle a longtemps été décriée, hein, cette collection, ses fondateurs accusés de vouloir ghettoiser la littérature africaine. Il n'en reste pas moins que cette collection, aujourd'hui riche de quelques 130 titres, a permis de faire émerger de grands noms des lettres africaines contemporaines. Tirthankar Chanda nous en parle donc ce matin. Il est avec le directeur de cette collection, justement, Jean-Noël Schifano.
Bonjour Jean-Noël Schifano. Voulez-vous rappeler les circonstances de la naissance de la collection Continent Noir ?
C'est une aventure littéraire qui a commencé avec le voyage fondateur que j'ai fait avec Antoine Gallimard au Gabon, à Libreville, en janvier 1999. Pendant le voyage, Antoine me dit « ce serait bien si tu prenais la tête d'une collection qui concerne l'Afrique, des écrivains africains, et qu'on fonde cette collection dans la maison Gallimard ». Et exactement un an après, on vient présenter au même lieu, au Gabon, à Libreville, 5 premiers auteurs de Continent Noir. Voilà, 25 ans après, on en est avec plus de 130 titres, 54 auteurs et une trentaine de prix littéraires.
Qui sont les 5 premiers auteurs de la collection ?
Les 5 premiers auteurs de Continent Noir sont Gaston Poléfa et son roman « Le cri que tu pousses ne réveillera personne », Justine Minsa et son roman qui s'appelle « Histoire d'Aou » traduit aux États-Unis qui ne cesse d'être réimprimé, Sylvie Candé, très grande poétesse, très grande styliste, et son premier ouvrage « Lagon Lagune » postfacé par Édouard Glissant, « La révolte du Como », roman d'un Malien, Ali Diallo, et parmi eux, Antoine Gallimard m'a proposé de publier une des plus puissante racine des littératures africaines, le Nigérian Amos Tutuola, le roman traduit dans la langue de Voltaire en 1953 par Raymond Queneau, le titre de ce roman, L'ivrogne dans la brousse. Et c'est un roman Yoruba, chef-d'œuvre absolu. Amos Tutuola, grand écrivain, personne ne peut le nier. Eh bien, quand il est mort, personne au monde n'en a parlé. Il n'y a eu rien dans les médias, ni en France, ni en Angleterre, où il publiait chez Faber & Faber. Dans Continent Noir, je suis très heureux d'avoir aidé à sa résurrection.
Racines et découvertes sont les deux logiques sur lesquelles vous avez bâti Continent Noir. Quels sont les principaux auteurs découverts au cours des 25 années écoulées ?
Je vous donne les auteurs qui ont publié dans Continent Noir leur premier livre. Sylvie Candé, je vous l'ai nommé, Lagon Lagune, c'est une auteure qui sait écrire en vers des épopées historiques. Ousmane Diarra, dont le dernier roman, La route des clameurs, est sorti aussi en folio. Natacha Apana, il y a plus de 20 ans, m'apparaît un beau jour de printemps, timide et radieuse jeune femme, au milieu du Salon du Livre de Paris, le manuscrit des Rochers de Poudre d'Or à la main, est fait aujourd'hui partie du prestigieux, s'il en est, comité de lecture Gallimard. Mahamat Saleh Haroun, le grand cinéaste, est fêté à Cannes, à Venise et partout où ses films nous émeuvent tant. Il choisit Continent Noir pour ses premiers romans. C'est un nouvel écrivain qui a guéri dans l'art de faire voir et d'émouvoir. Eh bien, qu'est-ce que c'est écrire ? C'est faire voir et émouvoir avec des mots. Et lui, il a commencé par les images. Vous voyez, c'est ça la marche de Continent Noir.
Vous recevez à peu près 200 manuscrits par an. Quels sont vos critères de sélection ?
Quelqu'un qui écrit, qui sait faire voir et émouvoir, c'est importantissime. Parce que dans la nostalgie et la vengeance, qui sont les deux temps du moteur de l'écriture, eh bien, l'Afrique qui a tant souffert, et qui vit, qui ressuscite, qui revit, et des écrivains africains qui cherchent toujours un cheminement dans l'écriture, ils ont vraiment une place royale. C'est pourquoi j'ai toujours voulu faire de Continent Noir, depuis le début, une pointe de diamant de l'écriture universelle. Et je crois que ces 25 ans vont confirmer que la pointe de diamant est bien taillée.
La chronique littéraire de Tirtan Karchanda avec Jean-Noël Skifano, le directeur de la collection Continent Noir, que vous pourrez d'ailleurs retrouver demain dans notre toute nouvelle émission culture sur RFI, Le Pont des Arts, présenté par Nathalie Amar. Rendez-vous le lundi, donc à 16h10 heure de Paris, 14h10 temps universel. On y vient justement, chose promise, chose due, à notre reportage du jour. Ces Vénézuéliens qui ont quitté leur pays après l'élection de Nicolas Maduro. Certains d'entre eux ont trouvé refuge au Maroc, où nous emmène François Humfer Katadji.
Béatrice vient tout juste de terminer sa prestation dans une ambiance de fête. Trois fois par semaine à Casablanca, elle se produit dans différents bars de la capitale économique, alternant entre des tubes pop et des chansons vénézuéliennes. Elle est arrivée en 2013, à une époque où les artistes sud-américains pouvaient entrer au Maroc sans visa, grâce à une politique de coopération économique et culturelle entre le Royaume et les pays d'Amérique du Sud.
Les Marocains adorent la musique latine. C'était très joli le projet d'amener des musiciens latinos de la Colombie, vénézuéliens et chiliens.
Partie pour un contrat d'un an au Maroc, elle y est finalement restée pendant plus de 10 ans jusqu'à aujourd'hui.
C'est un pays que je ne connais pas, la culture, et j'adore toutes les choses que je ne connais pas pour découvrir la gastronomie et comme ça. Et le Maroc, c'est un pays avec une sécurité exceptionnelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on a resté beaucoup de temps ici, à différence du Venezuela, par exemple, actuellement.
Environ 2000 Vénézuéliens auraient ainsi migré au Maroc, mais à partir de 2017, les tensions se sont considérablement accrues entre Rabat et Caracas, après que Nicolas Maduro a qualifié le Sahara occidental de territoire occupé. Les visas ont été rétablis, la moitié des Vénézuéliens résidant au Maroc ont quitté le pays, les autres sont restés condamnés à vivre sans papier, comme Béatrice.
La majorité des Vénézuéliens sont quittés le Maroc pour ça, parce que c'est insupportable d'habiter dans un pays sans papier. Il y a des familles, des enfants qui sont nés ici. Et finalement, c'est complexe la situation de Vénézuéliens ici. On a resté comme en prison.
Jorge est vénézuélien, musicien, batteur dans l'un des hôtels les plus luxueux de Marrakech. Il réside au Maroc depuis 2013. Bien qu'il soit très attaché au Maroc, il se retrouve aussi dans l'illégalité. Mais il s'accroche à l'espoir que Nicolas Maduro soit chassé du pouvoir prochainement pour que sa situation administrative s'améliore.
Vraiment, le problème, c'est Maduro. Vraiment. C'est difficile que le roi change avec Maduro. Donc on attend le prochain 10 janvier, c'est une limite pour Maduro laisser la présidence.
Le 10 janvier prochain, date programmée de l'investiture de Nicolas Maduro, l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia promet de reprendre le pouvoir. François Humfer Katadji, Casablanca, RFI.
Un reportage au Maroc à retrouver sur Internet, bien sûr, comme tous nos contenus. À 5h55 à Paris, 100% Création poursuit sa série à la rencontre des compagnons, des artisans d'art, des designers qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, c'est Marie Parent-Andaloro qui nous raconte son métier, restauratrice de peinture murale. Elle est la mandataire d'un regroupement de 15 restaurateurs qui étaient en charge de la restauration des peintures de trois chapelles. Marie Parent-Andaloro est au micro de Maria Afonso.
Dans mon parcours professionnel, c'est un chantier extraordinaire. On peut dire que ça m'a pris 2 ans et demi pratiquement de temps plein.
Marie Parent-Andaloro, restauratrice de peinture murale.
Beaucoup d'investissements, surtout quand on a beaucoup de chapelles à faire et une grosse équipe à gérer. Moi, j'étais très heureuse. Voilà. Pendant 2 ans et demi, ça a été un grand plaisir.
Marie Parent-Andaloro est une experte aguerrie dans le domaine de la conservation du patrimoine. Originaire de Toulouse, elle a suivi des études aux Beaux-Arts avant de se spécialiser dans la restauration. Elle commence sa carrière dans la peinture de chevalet avant de s'orienter dans la restauration de peinture murale. Depuis plus de 20 ans, Marie Parent-Andaloro travaille principalement dans des églises et d'autres sites historiques. Son parcours atypique mêle art et technique. Pour la restauration des peintures murales de Notre-Dame de Paris, Marie Parent-Andaloro et son équipe ont participé au chantier test. Chaque projet de restauration présente des défis et apporte aussi des bonheurs.
Alors la première quand même très belle surprise, c'est l'homogénéité de l'ensemble. C'est-à-dire quels que soient les lots, le rendu est exactement pareil. Donc ça c'était vraiment le gros challenge du départ parce que quand il y a trois lots et des entreprises différentes, il faut qu'il y ait quand même la même main, le même résultat, le même rendu. Donc ça, ça a été fait grâce au protocole qui a été établi en amont. Donc tout le monde a utilisé le même protocole. Alors l'architecte était là pour surveiller ça, même entre nous. Des fois quand on avait des soucis, on partageait les soucis. Et puis le contraste entre les peintures murales de toutes les chapelles du déambulatoire et la couleur de la pierre. Alors là, vraiment, ça a été une révélation. Pour moi, c'est vraiment l'instant Viollet-le-Duc.
Pendant la restauration de la cathédrale, Marie Parent d'Aloro a tissé des liens avec d'autres artisans. Pour la restauratrice, les relations humaines ont été très importantes sur ce chantier.
Le grand plus de ce chantier, honnêtement, ça a été la coactivité et les rencontres humaines. Généralement, quand on fait un chantier de peinture murale, on arrive, l'électricité est posée, l'eau est posée, l'échafaudage est monté. Là, au quotidien, on a travaillé vraiment avec les échafaudeurs, avec les plombiers, avec les électriciens, avec ceux qui s'occupaient de l'eau, même les restaurateurs de vitraux, les restaurateurs de sculptures, ceux qui s'occupaient des parements, parce qu'on les côtoyait vraiment au quotidien. Donc humainement, c'était que des belles rencontres.
Retrouvez l'univers de Marie Parent en Daloro sur RFI.fr. Chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, 100% création tous les dimanches sur RFI. Allez, avant de retrouver RFI Matin avec Gaëtan Plémé, on marque une petite pause en musique. On vous propose d'écouter un extrait de la playlist RFI Musique du mois. On écoute Gabi Hartmann et son titre « Take a Swing at the Moon ».
What's the use of us arguing? Won't you let me sing you a tune? All night long you've been thundering. Take a swing at the moon. Another dream goes to your head, another thing you think I said. But just don't look into the past for very long. So say goodbye to everyone who ever looked to the sun. You know it didn't last for long. I'll be here if you wonder. I'd be glad to see.
Gabi Hartmann, extrait de la playlist du mois RFI Musique. Plein de pépites comme celle-ci vous y attendent. Merci à Laurent Hérault qui était à la réalisation. Restez avec nous, tout de suite, c'est RFI Matin qui débute avec Gaëtan Plénet. Excellente matinée.